Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes orphelins de Catherine Ney qui nous abandonne ce week-end exceptionnellement. Mais je suis bien entouré avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour à vous trois.
Bonjour, bonjour Pierre.
Au sommaire de cette émission, un sondage Ipsos, mais Zemmour a 15% d'intention de vote au premier tour. Il écrase n'importe quel candidat de droite dans toutes les hypothèses. Chez les Républicains, les militants ont choisi d'enterrer la primaire, place aux opérations séduction pour allier Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, pour rallier un maximum de soutien à leur cause avant le congrès du 4 décembre. Quant à Édouard Philippe, il se dit toujours loyal à Emmanuel Macron, mais donne quelques conseils budgétaires non négligeables. L'onde de choc de cette semaine à droite, c'est également cette condamnation de l'ancien président Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion. Sa famille politique exprime son soutien, comme le Premier ministre sur TF1 et l'ancien président de dénoncer un droit bafoué. La République des juges a-t-elle encore frappé ? Quelles conséquences pour LR à 7 mois de la présidentielle ? Nous posons la question aux grandes voix. Et puis alors qu'on tombe nez à nez avec une nouvelle affaire Mitterrand, une jeune femme d'à peine 30 ans aujourd'hui, qui aurait été sa maîtresse dans les dernières années de sa vie. Que se passe-t-il à gauche ? Qui croit encore à un sursaut du Parti Socialiste avec la candidature d'Anne Hidalgo ? Yannick Jadot, candidat officiel des Verts, ne va-t-il pas plomber cet élan ? Vous avez le programme, les grandes voix, ça commence. Et l'onde de choc d'hier soir, c'est donc ce sondage Ipsos, publié ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, donnant Éric Zemmour à 15% d'intention de vote au premier tour, 15% d'intention de vote dans tous les cas de figure, que ce soit Barnier, Zemmour à 15, Barnier à 11, Pécresse, Zemmour à 15, Pécresse à 12, ou même Bertrand, Zemmour à 15, Bertrand à 14, Zemmour siphonne les voix de droite et d'extrême droite, puisque Marine Le Pen se retrouve à 16%, alors qu'elle était à plus de 20 il y a encore peu de temps. Zemmour monte, jusqu'où ça va aller ?
Écoutez, ça va aller encore, je crois, nettement plus haut. Pourquoi ? Parce que les raisons qui font qu'il monte, qu'il a doublé en gros son périmètre en 2 semaines, il est passé de 5-6 à 15, donc c'est même pas doublé, c'est triplé. Triplé donc son périmètre. Les raisons, donc il y a 2 choses essentielles. Il y a effectivement qu'il continue de développer une argumentation en disant tout haut ce que beaucoup de gens, depuis des années, susurraient ou pensaient très fort, mais n'osaient pas dire tout bas. Donc, il dit ce que les gens pensent dans la majorité à droite. Je parle de la droite. Il y a des tas de gens de gauche qui ne pensent pas du tout cette chose-là, et Michel va nous le rappeler. Mais à droite, il y a cette idée qu'enfin quelqu'un dit « le roi est nu », et dit un certain nombre de vérités. Donc ça, il y a
mais
pas de
raison. Mais c'est une pensée universelle, alors, universelle, oui, dans toute la droite ?
Dans une grande partie de la droite, et dans toutes les droites. Alors, je ne vais pas reprendre les droites de René Raymond, mais dans la droite populaire, comme dans une partie de la droite bourgeoise, où c'est vraiment, il y a un discours qui porte, qui est celui-là. Donc, il peut continuer à monter. Il était le troisième homme, comme on dit, de chez Graham Greene. Le troisième homme était aujourd'hui troisième. Il y a toutes les raisons de penser que le troisième homme peut devenir deuxième dans les 2 semaines qui viennent. Pourquoi ? Parce que quand on est à 1 point de Marine Le Pen, et quand on voit que Marine Le Pen, elle est dans un phénomène que il y a deux semaines, j'ai dit, elle pourrait dévisser. Aujourd'hui, je dis, elle dévisse. Mmh. Ça veut dire clairement qu'elle est sur une courbe, une pente descendante. Et quand on est en politique sur une pente descendante, c'est très difficile de remonter le courant. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne remontera pas. On est à 7 mois. Faut toujours penser ça, on est à 7 mois. Il y a entre-temps beaucoup d'événements qui peuvent arriver. Mais quand même, pour l'instant, elle est dans une pente et je pense que Zemmour va passer Marine Le Pen dans les 2 semaines qui viennent.
Michel Cotta.
Enfin, on en est moins sûr, de toute façon, les sondages. Précaution d'usage à prendre sur les sondages, bien sûr. Mais enfin, il y a une dynamique. Une dynamique Zemmour, et moi je crois qu'elle n'est pas qu'idéologique. Idéologiquement, c'est vrai qu'il n'a pas changé, et qu'il n'a pas changé d'ailleurs depuis 10 ans. Elle est surtout, je trouve, stratégique, c'est-à-dire en attaquant à la fois frontalement Marine Le Pen, lorsqu'il dit « elle ne sera pas élue », il touche en réalité tous les proches de Marine Le Pen qui se disent « après tout, est-ce qu'elle en est capable ?» etc. Et puis en attaquant
C'est une politique de déstabilisation.
Ouais,
ça.
Et il déstabilise aussi les Républicains. Mm. Parce qu'on voit très bien, les Républicains, une partie dit « faut parler avec lui », l'autre dit « non, faut pas parler ». Christian Jacob qui dit « il faut pas parler », le premier à parler avec lui. Il y a vraiment une espèce de on a l'impression d'un affolement des Républicains. Et pourquoi ? Parce que les Républicains sont, on sait bien que les Républicains sont divisés, je ne dirais pas comme Gérard, que toute la droite est sur la ligne, mais la droite est divisée par conséquent. Ils attaquent le Rassemblement National, ils divisent la droite, oui c'est vrai.
Opération gagnée.
Et en plus les gens détestent les partis, on vient d'avoir des dernières études, des dernières enquêtes sur les partis politiques. Bon, les partis politiques c'est terminé, alors il faudra voir ce qui les remplace. Mais en plus, ils jouent sur cette dynamique, les partis politiques, on n'en veut plus, il n'y a que les individus qui peuvent changer les choses.
Opération de déstabilisation, c'est d'ailleurs une technique militaire, mon cher Charles Villeneuve.
C'est un... Oui, enfin, il faut raison garder par rapport, si vous voulez, à la différence qui existe. Gérard, Michel l'ont souligné, les uns par rapport aux autres, ils sont tous à un point, deux points. C'est la marge d'erreur, c'est ce que les sondeurs appellent la marge d'erreur. C'est la raison pour laquelle il faut voir si c'est durable. Gérard disait tout à l'heure qu'il est dans une dynamique qui fera que, étant à un point de Marine Le Pen, il va passer Marine Le Pen. Le phénomène nouveau, si vous voulez, dans le triplement de son score par rapport au début, c'est que près de 25% des électeurs de François Fillon de 2017 ont rejoint Zemmour. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'architecture de l'élection présidentielle de 2017, par la présence au premier tour de Zemmour, est ébranlée. Et c'est le phénomène nouveau pour moi, si vous voulez, avec l'accentuation de sa dynamique. Est-ce que c'est durable ? Évidemment, beaucoup rappellent le score de Jean-Pierre Chevènement qui était monté à près de 15 points et qui était, le jour de l'élection du premier tour, était retombé à 5 points. Ça, c'est une manière de se rassurer. Ça vient surtout d'un certain nombre de députés de la Macronie. Chacun se rassure comme il peut. Mais là, manifestement, il n'y a pas que son livre qui se vend comme les chocolats à Pâques. C'est vrai. Mais il est dans une véritable dynamique et il a ajouté à ses arguments sur l'immigration, il a ajouté l'État-providence. Et je pense que c'est ce qui a principalement ramené les électeurs de François Fillon autour de Zemmour.
Gérard Carreau.
Oui, on le compare. Alors c'est toujours... Là, Charles vient de rappeler l'exemple Chevènement. Il y a des choses à prendre dans cette comparaison-là. Il y en a d'autres qui sont très différentes. Moi, j'ai tendance à voir deux comparaisons à ce stade. Ça peut peut-être bouger, mais la première comparaison, c'est celle effectivement avec Macron, en disant après tout, regardez, revivez 2017, les partis politiques étaient tourneboulés, et du coup, Macron est arrivé en disant qu'il allait faire une rupture, qu'il allait tout changer. Il y a quelque chose, c'est vrai, la nouveauté. Tout d'un coup, quand on vous dit depuis 4 ans, vous allez vous faire un deuxième tour, Macron-Le Pen, tout le monde en avait marre, tous les sondages le montraient.
C'est Raphaël Nadal contre Roger Federer.
C'est rafraîchissant, tout d'un coup, il y a un nouveau, etc. Donc, ça joue aussi. Bon, et j'ai pas dit tout à l'heure aussi, l'une des causes, c'est quand même l'exposition médiatique considérable. Parce que depuis qu'il fait plus une télé tous les jours, où il était sur CNews, il fait plus de télé que jamais. Donc, ça joue quand même un rôle.
Il est plus attendu. Il est plus attendu aussi.
Donc, il y a ça. Mais moi, la deuxième comparaison, je maintiens que la vraie comparaison, la comparaison n'est pas toujours raison, mais ce qui le rapproche le plus, c'est quand même celle avec Trump. Il y a effectivement, sur la méthode tactique, c'est plus Macron, mais sur le fond, moi j'ai tellement entendu, pendant des mois, les primaires républicaines, et puis l'élection, et puis... Qu'est-ce que disait Trump ? Le fond sociologique et la base politique, c'était le Trumpisme, c'était notre pays fout le camp, notre pays va mal, les politiciens l'ont démoli, vous êtes fiers d'être américains et vous êtes tous les jours, vous avez le sentiment de plus être chez vous en Amérique, la classe moyenne, il n'y a plus le rêve américain. Il a martelé ça et il a été élu pour ça. Je dis pas, attention, je arrête ma comparaison, je dis pas que Zemmour va être élu, mais je dis que la base sociologique, c'est ça. C'est tout d'un coup ce ras-le-bol d'une très grande partie de la population qui fait comme Trump.
Oui, alors, il faut remarquer aussi, Gérard, je me souviens, puisque je suis témoin, Gérard n'était pas tombé dans le piège classique par rapport à Trump et me signalait qu'en réalité, c'était une lame de fond. C'est vrai. Mmh. Bon. Mais il faut remarquer qu'à l'autre bout de la chaîne, par rapport à ce sondage, notamment, Macron réussit une véritable performance. Bien aussi. Sûr. Il y a longtemps qu'un président de la République en place, oui, aux manettes, qui dirige le pays, n'a disposé d'un socle qui rassemble 40% de popularité dans la dernière année de son mandat,
exactement,
de son premier mandat. Et Macron fait 25 points au premier tour. Et donc, il y a là un phénomène aussi qu'il faut souligner.
Michel Cotin.
Oui, moi, je souligne peut-être ce phénomène, mais j'en vois un autre que personne ne semble voir et qui, moi, me touche beaucoup.
Suspense.
C'est-à-dire que si vous additionnez maintenant les voix de Zemmour et les voix de Marine Le Pen, vous arrivez à un très haut score
de
ce qu'on peut appeler l'extrême droite. On arrive à 31, 32. Donc évidemment, quand ils sont divisés...
Il n'y a pas que l'extrême droite dans les électeurs, en tout cas sur les intentions de vote.
Il y a des représentants de voix de droite du gouvernement.
Il n'y a pas non plus que de l'extrême droite derrière Marine Le Pen. Je veux dire que l'addition des deux reste quand même phénoménale. C'est-à-dire qu'on peut se demander si d'une certaine façon... Édouard Zemmour n'est pas le réservoir de voix qu'attendait au deuxième tour Marine Le Pen. Donc c'est celui qui arrive le premier, évidemment, qui bénéficie du rapport de voix de l'autre. Ouais. Mais enfin, il y a une volonté, il y a nettement quelque chose qui, ou de nouveaux électeurs, ou des électeurs qui se déplacent sur les deux.
Mais l'addition des trois, si tu mets les trois, si tu rajoutes les candidatures républicaines, tu dépasses les 45%. C'est ça aussi qui montre le pays est à droite.
On va reprendre les chiffres et les lettres dans une poignée de secondes. À tout de suite avec les grandes voix.